Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour cette troisième interview au Festival Éclat, 19e édition à Dieulfi, à la Halle. Et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Martin. On l'avait rencontré et entendu l'année dernière, accompagnant Pierce Faccini à l'église Saint-Pierre. Vous la réentendrez cette année, sa douce voix, à l'église Saint-Pierre, toujours dimanche à 17h30, dans une interprétation de musique carnatique, qui est la musique traditionnelle du sud de l'Inde. Je ne dirais pas, elle est venue avec l'instrument qui accompagne sa voix, dont elle va nous parler. En tout cas, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et vous allez aussi donner un atelier dont vous allez nous parler également, un atelier de chant en haut de la montagne.
C'est ça.
Alors, on parle de musique carnatique, c'est de la musique traditionnelle ancestrale plutôt de l'Inde du sud. Comment vous avez rencontré cette musique et quelles sont ses caractéristiques ?
Alors, bon, moi j'ai rencontré cette musique de manière très simple, c'est par ma famille en fait. Mes parents sont musiciens classiques, professionnels, et mon père a rencontré cette musique il y a une trentaine d'années, donc juste au moment de ma naissance. Du coup, j'ai grandi un petit peu baignée dans cette musique que je n'ai ni appréciée ni pratiquée jusqu'à mes 19 ans. C'était une musique avec laquelle j'avais beaucoup de mal en réalité. Je ne la supportais pas. Donc mon père m'avait un petit peu fait goûter cette musique. Il nous avait emmenés en Inde quand on était jeunes avec ma famille. Mais j'avais une résistance très forte avec cette musique que j'avais beaucoup de mal à apprécier. Jusqu'au jour où la personne qui est devenue mon professeur, donc T.M. Krishna, avec qui je me suis formée les 10 ans en Inde, est venue chez nous parce qu'il chantait au Théâtre de la Ville à Paris. Et voilà, il a passé une semaine chez nous, m'a donné un premier cours, un deuxième cours, un troisième cours. Et voilà, j'ai eu une sorte de révélation soudaine pour cette musique. J'ai eu une expérience très forte à l'écoute.
Des cours de chant, donc.
Ouais, en fait, moi j'ai grandi, j'ai toujours grandi dans la musique. Je me suis formée en piano classique au Conservatoire de Nantes. Mais j'ai toujours eu un amour pour le chant. Je chantais tout le temps, à tue-tête, tout et n'importe quoi. J'improvisais tout le temps. Mais j'étais très attirée par le chant flamenco, par les chants... j'ai grandi avec les films de Tony Gatliff, tous les films sur toute cette musique-là. Et en fait, j'avais une passion pour le fait de sortir la voix, en fait. Je chantais, j'improvisais, tout ça. Et en fait, j'ai été formée au chant un petit peu lyrique au Conservatoire de Nantes, à l'Opéra de Nantes, et j'arrivais pas à trouver ma forme, en fait. J'arrivais pas à trouver mon... mes profs de chant à l'époque se disaient que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'elle, elle a pas beaucoup de puissance, il y a pas beaucoup de voix,
elle chante bien, elle chante bien, mais on sait pas où la mettre.
Enfin, et puis je sentais que c'était pas, il y avait quelque chose qui manquait en fait. Et puis le jour où mon prof est venu passer une semaine chez nous, en fait c'est mon père qui insistait pour que je prenne des cours avec lui. Moi ça m'intéressait pas parce que je disais non, moi je veux aller faire du flamenco, je veux pas faire cette musique indienne. Moi la musique indienne c'était une musique de retraités. De gens qui veulent faire de la méditation pour moi je disais à mon père quand j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, que je serai à la fin de ma vie, à ce moment-là je me mettrai peut-être à cette musique, mais avant je veux vraiment chanter quoi, je veux vivre, je veux voilà. J'avais une conception de la musique indienne, quelque chose de très 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 aérien, très désincarné, très dans le ciel, tout ça. Et en fait, quand j'ai pris mon premier cours avec donc Krishna, mon professeur, j'ai chanté, puis il m'a dit « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là ?» T'as pas plus de voix que ça ?» Je dis « Bah non, quand je monte dans les aigus, je peux pas chanter plus fort que ça. » Il dit « Mais je t'ai entendu te disputer avec ta maman ce matin, t'étais au troisième étage, elle était au rez-de-chaussée, j'ai l'impression que t'as plus de voix que ça. » Donc là, il m'a dit « Juste ouvre la bouche et chante. » Et en fait, ça a été le premier truc qui m'a... Enfin, ça a été un premier déclic. Donc, j'ai fait deux, trois essais où j'étais persuadée que quand je chantais au-delà d'une certaine hauteur, j'avais plus de force, en fait, plus de puissance. Et en fait, là, il y a ma voix qui est sortie. Et là, ça a été comme l'impression, pour la première fois, ma voix sortait vraiment et était, était, été révélée à moi-même et que j'avais le droit de chanter vraiment avec ma voix à moi, pas d'imiter un style de chant ou un autre. Et donc, ça a été
le premier verrou qui a sauté.
Exactement. Et du coup, ça m'a intéressée. Puis j'ai fait un deuxième cours, un troisième cours. J'ai commencé à me lever à 5 heures du matin avant d'aller au lycée pour travailler. Et puis, au bout du troisième jour, mon professeur a chanté une improvisation, donc sans parole. On appelle ça un alapana, dans différents ragas, dans différents modes mélodiques. Et là, j'ai vraiment eu une rencontre. J'ai été profondément touchée, en fait, où j'ai eu l'impression que c'était... Ouais, c'est ce qu'on appelle un appel ou une vocation. Enfin, c'était vraiment un moment très fort où toute ma vie a basculé, où j'ai décidé que j'ai su que ce que j'avais à faire de mon existence, c'était d'aller apprendre cette musique avec cette personne et que le reste découlerait de ça, mais que c'était clair et voilà.
Alors cette musique carnatique, elle comporte, c'est une musique qu'on dit modale.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Et puis elle comporte aussi des parties écrites très, très précises,
oui.
ou transmises par
oui.
la tradition.
Exactement.
Et des parties d'improvisation.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu voilà, comment ça se structure et comment ça se vit au moment où on l'interprète?
Eh bien, donc on imagine souvent que la musique indienne en général et la musique carnatique notamment, c'est une musique qui est figée dans le temps, dans le passé, qui appartient au passé. Et en fait, donc une des particularités de la musique carnatique, c'est une musique qui est parfaitement équilibrée entre composition, donc musique transmise, non pas écrite parce que c'est une tradition orale évidemment, mais transmise de maître à disciple au fil des générations, au fil des siècles et même des, ouais, on va dire des siècles, on s'arrête là. Mais donc il y a cette partie-là qui doit être... en fait, la transmission orale dans la musique carnatique est un aspect essentiel où pendant toute une période, toute une partie du travail et de l'apprentissage est d'apprendre à écouter, à reproduire ce qu'on entend exactement comme on nous l'apprend. Donc ça demande une discipline assez grande. Et l'autre partie de cette musique est donc tout l'aspect d'improvisation. Et en fait, c'est vrai qu'on imagine souvent que l'improvisation, c'est faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, quelque chose de complètement libre. Et en fait, l'improvisation, c'est plutôt l'exploration de la liberté, mais au cœur d'une structure extrêmement précise. C'est vraiment d'arriver à atteindre la liberté à l'intérieur d'une boîte, en fait. Et on peut atteindre cette liberté que si on a connaissance de tous les codes. Donc, c'est d'une richesse immense. Et en fait, la manière dont l'apprentissage se fait, c'est que souvent, on imagine aussi que l'improvisation, quand on veut faire la musique indienne, on veut improviser, on veut... Et en fait, dans la tradition carnatique, en tout cas, dans celle du Nord, c'est un petit peu différent l'approche, mais dans le Sud, on commence l'improvisation. Moi, j'ai fait ma première improvisation au bout de 5 ans d'apprentissage. Donc, c'est apprenant...
C'est pas donné tout de suite,
Non, c'est en apprenant des tas de compositions, en allant à des heures et des heures et des heures de concerts, d'écoute de musique, qu'on amasse assez d'informations, de connaissances pour ensuite pouvoir avoir les outils pour improviser. Donc l'improvisation nourrit les compositions et ça fait évoluer la musique et le langage, les codes de la musique, des ragas, ces modes mélodiques qui évoluent en fait constamment. Et les compositions font évoluer l'improvisation. Donc c'est un jeu...
Mais ça me fait penser au jazz, ce que vous décrivez.
Il y a des principes, il y a des principes similaires. Il y a des principes similaires, oui.
Et alors, vous parlez de l'importance, donc, si je comprends bien, de la transmission. La transmission et créer des déclics chez les gens pour qu'ils se sentent peut-être autorisés à chanter, à utiliser leur voix. Et vous allez donner un atelier très particulier cette semaine au Festival Éclat, puisque vous proposez à des stagiaires, en tout cas à les personnes qui s'inscriront, de monter à la Chapelle Saint-Maurice pour tester leur voix, pour justement...
Pour découvrir leur voix, pour oser sortir leur voix, pour découvrir autour et avec cette musique donc ancestrale qui vient de l'Inde du Sud. En fait, l'intention, c'est vraiment de permettre un temps. Donc en plus, là, on a la chance de faire 3 jours de suite. Donc c'est vraiment une chance énorme. Et en fait... c'est aussi une chance énorme d'être dans un lieu tel que celui dans lequel on va être, donc la chapelle Saint-Maurice. En fait, moi, depuis quelques années, une de mes passions, c'est de chanter dans les chapelles et de faire vivre cette musique dans ces petits lieux-là, qu'on trouve dans des petits coins de la France, il y en a tellement. Et donc Camille, la directrice du festival, a été très généreuse dans sa proposition de pouvoir trouver un endroit comme ça pour faire ce stage. Et donc c'est une toute petite chapelle, on dirait, on a l'impression d'être dans le ventre d'une maman. Je ne sais pas si vous l'avez vu,
si, bien
mais
sûr.
C'est absolument merveilleux, tout en haut de la montagne, donc on est en lien avec les éléments, et c'est un peu comme, la proposition, elle est vraiment En fait, mon intention est de faire vivre aux personnes qui vont venir chanter avec moi ce que moi j'ai eu comme première expérience avec la voix, c'est-à-dire que de faire l'expérience du fait qu'on a tous une voix unique, il n'y a pas des belles voix et des mauvaises voix, il y a des voix différentes, et nos voix sont ce qui, nos voix révèlent qui nous sommes, et on a souvent beaucoup beaucoup de blocages. De par l'enfance, de par la manière dont on nous a dit qu'on chantait faux ou voilà. Et donc l'idée, c'est un peu déjà la première étape est d'oser sortir la voix, en fait, et de sentir qu'on est libre de dépasser quelque chose.
Vous proposez quasiment une expérience initiatique.
ouais, on verra.
Alors, dimanche, vous serez sur scène, accompagnée par des musiciens. Ce sont des musiciens avec lesquels vous travaillez régulièrement ?
Oui. Alors, j'ai énormément de chance de les avoir parce que une grande partie de mon travail consiste à chanter cette musique traditionnellement, de manière traditionnelle, dans le format dont elle m'a été apprise et dans la forme dans laquelle elle se joue aujourd'hui, notamment en Inde. Donc je ne peux faire cette musique-là comme ça qu'avec des musiciens qui sont formés spécifiquement à cette musique. Mmh. Et il y en a très très peu en France et en Europe. Et donc je suis accompagnée au mridangam, donc aux percussions, par un très jeune talentueux percussionniste qui s'appelle Venkat Krishnan. Et donc c'est un jeune musicien qui a été formé, qui est originaire de Chennai, du sud de l'Inde, qui a été formé avec un des plus grands maîtres de cet instrument, de cette musique, et qui est docteur en neurobiologie, chercheur en neurobiologie, docteur, à Paris. Donc il vit donc à Paris depuis 5 ans, ce qui fait qu'il est là. Et donc les week-ends, il est passé souvent avec moi à travers la France pour aller faire des concerts. Donc c'est une chance énorme de pouvoir découvrir... Voilà, les percussions du sud de l'Inde qui sont d'une très grande richesse. Et au violon, je serai accompagnée par Charles Parameshwalingam, qui est originaire du Sri Lanka, mais qui est français, qui est né en France, et qui est aussi un très jeune, très, très talentueux jeune violoniste qui vit aussi dans les alentours de Paris. On se connaît un petit peu moins bien avec Charles, on a joué que quelques fois, mais je suis très heureuse de l'avoir rencontré. Voilà.
Et vous êtes venue aujourd'hui avec une tempura,
oui.
Qui est un magnifique instrument indien, à long manche, on va dire,
oui.
avec lequel vous accompagnez votre voix. Comment ça fonctionne, alors, le duo voix-tempura ? Parce que vous me disiez tout à l'heure que ça, c'est une...
Ça soutient. En fait, la tempura, elle émet un son, elle crée un son qui s'appelle la shruti. Et la shruti, en fait, c'est un terme sanskrit qui signifie se souvenir. Et c'est se souvenir de ce qui ne change jamais, se souvenir de l'immuable. Donc en fait, comme beaucoup de musique modale, comme la musique carnatique n'est pas une musique qui évolue de manière harmonique, mais mélodique, c'est-à-dire de manière horizontale, tout le développement et toute la richesse des mélodies se fait en rapport avec cet instrument. Donc je peux tout à fait chanter a cappella sans instrument, techniquement ça marche, mais en fait ça marche pas.
Ça permet d'activer la mémoire des sons, enfin le fait que ça reste...
Ça, en fait, ce que ça crée, c'est que ça crée, c'est comme si la tempura, elle crée comme un... C'est comme si on remplit la pièce d'eau, ça crée un univers dans lequel on va nager avec les sons et avec les chants, et les chants et les notes, parce que dans la musique carnatique, une des choses essentielles, c'est que les notes sont jamais... Les notes sont toujours en mouvement. Et elles évoluent. Elles ne sont jamais chantées de la même manière en fonction de la gamme, du mode mélodique, du raga, en fonction des notes qui les précèdent, qui les succèdent. Et donc, c'est comme si les chants, les notes, les phrases, elles viennent se tisser autour de cette tempura, de cet espace sonore qui est créé, en fait.
Merci pour cette magnifique improvisation. Donc.
Avec plaisir. Non, ça, c'était une composition. C'était un chant en tamoul qui parle de l'importance de cultiver la paix les uns avec les autres et en soi-même.
C'est une musique qui décrit ce qu'elle propose. Ça rend très paisible. On va se quitter sur ces quelques notes. C'est un retour au Festival Éclat. Emmanuel, qu'est-ce que vous appréciez dans ce festival et est-ce que c'est l'occasion là, de remonter sur scène et de revoir du public après cette période?
Oui, j'ai repris la scène la semaine dernière avec une petite tournée de fin d'été, mais c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. De pouvoir participer avec des tas d'autres artistes, en fait, d'être comme c'est une musique assez spéciale, spécifique et lointaine, c'est toujours un grand bonheur pour moi de pouvoir être parmi d'autres artistes français et de pouvoir échanger, de pouvoir proposer quelque chose sur une semaine entière, c'est vraiment une chance énorme. Je suis très contente d'être
Est-ce
là.
Est-ce qu'il reste des places pour votre atelier à la Montagne Saint-Maurice ?
Il en reste quelques-unes, mais pas beaucoup. Et
alors, courez vous inscrire pour cet atelier qui se passera à la Chapelle Saint-Maurice autour de la voix et de la voix sacrée. Merci.
Merci à vous.
Et bon festival.
Merci.